Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans le débat de midi, même à midi 4, hein, voilà, ça reste le débat de midi, l'heure où les ventres commencent à gargouiller et les méninges à s'exciter, ça tombe bien, le débat de midi est là pour discuter des sujets qui animent notre époque. En entendant les ventres crier famine, ça me fait penser à ma grand-mère qui me régalait de petits biscuits en rentrant de l'école. Ah, quelle époque bénie. Tiens, ici, je m'écoutais le premier disque d'Oasis en regardant Jurassic Park. Et au fait, il devient quoi, Robert Hue? Bon, voilà, en quelques phrases illustrées, une crise de nostalgie. Hein, l'époque brasse et rebrasse les recettes d'antan, au point de se demander si la nostalgie, eh bien, c'était pas mieux avant. Est-ce à cela que nous voyons que nous traversons une période de crise? Aucun domaine n'est épargné par la nostalgie. En janvier dernier, c'était la lessive Bonux et son cadeau à l'intérieur qui faisait son retour en rayon. Un phénomène qui se constate notamment dans la pop culture. Indiana Jones 5 tire la corde de la nostalgie. Top Gun a sauvé le cinéma en surfant sur le « c'était mieux avant ». Dans les jeux vidéo, on parle même de rétro gaming. Les nouvelles aventures de Zelda sont un succès. Sans parler cet été du retour magistral de Blur et de la route sans obstacle d'Indochine. Alors comment les nouvelles générations vont se construire si on ne leur offre que le passé comme avenir? N'est-ce que marketing où chaque époque offre son lot de nostalgie d'un coup? On sent prendre de l'âge, on a une heure pour ne pas le regretter. J'attends vos notes vocales et vos messages sur l'appli France Inter. Bienvenue dans le débat de midi sur France Inter.
Jean-Mathieu Pernin, le débat de midi sur France Inter.
Et pour en parler, nous recevons du beau monde autour de la table du débat de midi et notamment Nora Boisouni. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, autrice, vous avez écrit de nombreux articles sur les séries, vous êtes présidente de l'association française des séries également.
Des critiques.
Des critiques, voilà. Pourquoi, des critiques.
Pas encore des séries.
Bah non, pas encore des séries, voilà. Également Séverine Barthes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à Paris 3, sociologue, spécialiste également. Alors des séries, mais des critiques aussi, on verra. Pourquoi? On verra. Silly Boy Blue, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chanteuse, vous avez été nommée aux Victoires de la musique 2023. Vous puisez, on dit ça, votre musique et votre inspiration dans la nostalgie, parce que vous êtes assez fan des années 2000 et ça fait bizarre de dire nostalgie des années 2000 alors qu'on est en 2023.
Oui, c'est vrai.
D'un coup, mais ça va être tout le problème, la problématique d'aujourd'hui. Et Julien Baldacchino, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous connaît bien, vous êtes journaliste spécialisé culture web à France Inter, créateur du podcast qu'il faut vraiment écouter, Les Rois du Monde et Stone, sur les comédies musicale, comme l'indique son nom. Alors, Nora Boisouni, quand on parle de nostalgie aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire vraiment que la nostalgie, c'est une valeur sûre?
Ou pour qui?
Pour tout le monde.
Pourquoi?
Aujourd'hui.
C'est une valeur sûre économiquement parlant. Ouais. Ça, c'est pas une recette qui fonctionne à chaque fois, mais c'est toujours un peu plus facile de faire des confitures dans des vieux pots pour l'industrie. Oui, je commence avec les métaphores.
Bien
c'est
sûr,
midi, on a faim, voilà. À part les bouffes. Non, c'est plus facile de faire ce genre de d'œuvre parce que il y a déjà une fanbase, donc une base de fans qui est énormissime. Et donc, quand on fait du Stranger Things, par exemple, donc où on dose la nostalgie mais qu'on fait une œuvre originale, eh bien on compte sur les trentenaires et les quadras qu'on connaît les années 80 et que ça réconforte, qu'une époque un peu doudou et esthétiquement très forte, très très distinctive, et on compte sur leur nostalgie et leur enthousiasme pour qu'il y ait une espèce de ruissellement de la nostalgie sur les gens plus jeunes.
Ah oui, c'est ça, d'accord. Alors, Julien Baldacchino, est-ce que justement, quand on parle là de Stranger Things, qui est une série Netflix qui joue sur la nostalgie des années 80, mais quand on voit aussi beaucoup de parents qui disent, bah moi j'emmène mes enfants voir le nouveau Jurassic Park, parce que, ah bah moi je l'ai vu en 1990, quand je l'emmène voir le nouveau Top Gun, parce que, ah bah moi j'ai vu le premier dans les années 80, est-ce que finalement aujourd'hui c'est une valeur sûre pour l'industrie du divertissement de se dire, voilà, on mise sur le ruissellement, ou alors on essaie de rechercher quelque chose de nouveau à travers cette nostalgie?
Alors pour l'industrie, oui, c'est-à-dire que effectivement les films qui marchent, on le voit par exemple avec Disney qui ne cesse de sortir des remakes, des nouvelles versions tournées en prise de vue réelle de ces dessins animés des années 90. Le Roi Lion, qui est sorti il y a quelques années en film, a surpassé le Roi Lion des années 90, le dessin animé qui pourtant est culte. Okay. Après, sur le plan artistique, tout est question de dosage. Et en fait, des films comme le deuxième Top Gun, comme l'énième Indiana Jones vont devoir jouer avec un petit peu de nostalgie, à aller chercher des petites références aux anciens films pour ne pas servir exactement la même chose et pour effectivement convaincre un nouveau public aussi. C'est ce dosage-là, à mon avis, qui est important.
Et c'est ça aussi, Séverine Barthe, vraiment, on l'a vu, ce phénomène, notamment alors dans les séries télévisées aujourd'hui qui ont pris une ampleur incroyable avec les plateformes, on a vu ce phénomène se développer, ce phénomène de nostalgie. On sait que finalement, il va y avoir aujourd'hui des spectateurs qui ont connu une série et qui se disent « Ah bah tiens, j'aimerais bien la revoir encore maintenant, savoir ce qu'ils sont devenus. » Je pense à des séries comme Gossip Girl, par exemple, dans les années, à la fin des années 90, début 2000, c'était une série qui marchait très bien. Et bien là, on a fait un remake, mais pas avec, bien sûr, les mêmes comédiens.
Évidemment, oui. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on est dans une phase qu'on appelle, alors c'est peut-être la fin, mais la peak television, donc une surproduction, une augmentation, une démultiplication du nombre de séries originales produites. Et donc, il faut se démarquer dans la masse. Et une manière un peu facile de se démarquer, c'est de proposer quelque chose que les gens connaissent déjà. Une marque, en gros, que les gens connaissent et reconnaissent. Donc, en faisant ça, vous gagnez un petit peu, vous avez un peu d'avance, si vous voulez, dans la publicité, puis dire, qui est donnée à votre programme. Et donc, ça explique en partie, hein, c'est sans doute pas la seule explication, mais d'un point de vue industriel, ça rassure les diffuseurs, les producteurs. Ça permet d'avoir plus d'exposition marketing, si je puis dire, ou communicationnelle à votre programme. Et donc, ça permet de surnager. C'est beaucoup plus facile de convaincre quelqu'un de dire « Ah, mais vous connaissiez déjà la série » ou « Vous en avez déjà entendu parler, vous l'avez pas vue, mais vous en avez déjà entendu parler, vous n'étiez pas né au moment de sa première diffusion ou pas assez grand, mais vous savez que c'est quelque chose qui a été important, venez voir plutôt que de dire, alors, on va vous proposer une nouvelle série de science-fiction avec tel élément et tel élément, et où il faut partir de zéro.
D'accord, oui.
Donc, alors, y a cette
mais ça s'adresse à qui, finalement? À ceux qui ont aussi déjà vu cette série, il y a 20 ans, ou alors, finalement, aux jeunes générations qui disent, ah, mes parents m'en ont parlé, alors je vais regarder.
Alors, globalement, les gens, les producteurs et les diffuseurs essayent de parler aux deux. Ce qui fait que parfois il y a des ratés ou il y a des choses un peu compliquées, parce que c'est difficile de faire plaisir à la fois à ceux qui connaissent le programme, qui l'ont déjà vu, à qui il faut donner des clins d'œil ou des références un peu précises, et en même temps il ne faut pas que ces références virent à la private joke incompréhensible pour les gens qui ne connaissent pas la série originale ou la référence originelle. Et donc, vous avez un travail d'équilibriste qui est plus ou moins réussi, selon les cas, qui peut plus ou moins marcher. Et c'est vraiment cette espèce de, oui, de funambule, d'exercice de funambulisme entre donner ce qu'il faut à ceux qui connaissent déjà, sans perdre, et en ayant suffisamment d'attrait pour ceux qui ne connaissent pas.
On sent la complexité, en effet, de la chose. Alors, Silly Boy Blue, je disais... tout à l'heure, on parlait, on s'amusait de dire que vous puisiez votre inspiration dans les années 2000. Nous y sommes encore un petit peu, finalement, dans ces années 2000. Mais pourquoi, vous, en tant que musicienne, c'est cette période-là qui vous intéresse?
Il s'est passé plein de choses en musique dans les années 2000, aussi bien musicalement, purement musicalement, que esthétiquement aussi. Ça a été l'essor de plein de choses, des boys bands, des girls bands, une espèce d'indépendance féminine aussi. Moi, c'est ça beaucoup qui m'inspire, c'est qu'on a laissé, enfin, on a commencé à laisser la place à autre chose que des groupes de quatre hommes qui faisaient de la musique, de la guitare ou quoi que ce soit. Donc moi, c'est vrai que c'est un moment de girl power, en tout cas, moi, dans mon enfance, qui m'a beaucoup inspirée, de commencer à voir les Destiny's Child, ou ça va de ça à Mylène Farmer, à même Joan Jett en front lady.
Après, c'est
qui
encore
est
plus
enfin...
vieux hein, que...
Ouais, c'est ça, mais il y a eu cette espèce de grande concentration de beaucoup de meufs qui sont arrivées, qui ont eu une place médiatique, télévisuelle, etc., qui, bah, moi, j'allumais la télé, et puis je voyais ça, et c'était les premiers clips que j'ai vus sur MCM ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça a été un moment assez assez important dans ma vie de jeune femme, quoi.
Mais c'est important, on comprend bien, mais en tant que là, vraiment en tant qu'artiste, est-ce que c'est une époque finalement que vous regrettez? Est-ce que c'est finalement une époque que vous saluez aujourd'hui dans votre musique?
Alors, je vais pas la regretter, parce que j'aime pas trop vivre dans les regrets, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose du domaine du c'était mieux avant, toujours dans ce qu'on fait. De toute manière, je pense que en tout cas dans la musique, il y a pas de courant musical qui n'est pas né d'un autre très frontalement ou plus indirectement. Il y a toujours eu des inspirations ça date pas d'aujourd'hui, les inspirations dans le passé, mais c'est vrai que dans le cas des années 2000, il y a eu tellement un renouveau de la musique que c'est vrai qu'on le retrouve beaucoup dans les musiques d'aujourd'hui, très proche.
Nora Bozzini, vous vouliez...
Oui, alors c'est intéressant de parler des années 2000, parce qu'il y a une série qui s'appelle Girls Five Ever, Fav comme le chiffre 5, qui parle juste, qui est sorti il y a quelques mois ou l'année dernière, je ne sais plus, qui est dispo en France, qui est une série américaine et qui justement parle d'un girls band, donc 5 femmes qui aujourd'hui sont quadra et qui ont eu en fait dans les années 2000 un gros hit, un gros tube, et qui après, c'était un peu la descente aux enfers, il y en a qui n'ont plus rien fait. Et justement, cette série qui est extrêmement récente, qui date de l'année dernière ou cette année, joue sur le côté nostalgique pour les gens qui ont connu l'époque des girls band, des Spice Girls, du girl power dont vous parliez, mais qui est une série complètement moderne, avec des enjeux modernes, féministes, mais qui revisite le traitement médiatique et dans la musique du business des femmes dans les années 90-2000, donc avec les enjeux quand même aujourd'hui, où on a un recul sur cette façon de représenter les femmes et de parler d'elles dans la musique, qui est intéressant. Donc encore une fois, sur ce dosage, on a des très bonnes séries qui le font très bien.
Séverine Barthes, quelle différence entre la nostalgie et ce que vient d'évoquer Sea Boy Blue? Le côté c'était mieux avant, quand on dit c'était mieux avant, et la nostalgie c'est quoi?
Vous avez combien de temps?
Non, on a jusqu'à une minute en fait. Voilà.
Ouais, alors,
est-ce qu'il y a une différence? Voilà.
C'est compliqué à dire aussi rapidement. Disons que la nostalgie, on peut l'avoir de deux manières. C'est-à-dire, soit ça devient quelque chose de paralysant et le passé devient quelque chose d'indépassable qu'on n'arrivera pas à égaler ni à dépasser, pardon pour la palissade, mais qui donc vous empêche de vous accomplir ou de vivre le moment présent ou de créer. Et puis, vous pouvez voir aussi la nostalgie comme une manière de vivifier et un appui sur... C'est un peu la querelle des anciens et des modernes, d'une certaine manière, qu'on rejoue ici. C'est-à-dire, est-ce que on est uniquement dans l'imitation? Est-ce qu'on essaye de créer du nouveau? Est-ce qu'on utilise les anciens comme un marchepied sur les épaules des géants? C'est exactement ça, c'est-à-dire on les utilise comme un moyen de grandir. Et donc la nostalgie, selon les gens, ça peut virer vers la mélancolie, et là c'est peut-être un peu plus paralysant, ou vers quelque chose de plus dynamique.
Paralysant, on le voit aussi, Julien Baldacchino, on a l'impression quand on voit les films aujourd'hui mainstream, alors en dehors de ceux qui marchent cet été, Barbie et Oppenheimer, qui sont en fait deux originalités par rapport à ce qu'on a pu voir comme blockbuster aujourd'hui, on a l'impression que Hollywood est comme paralysé à créer de nouvelles choses et se vautre, je prends ce terme exprès, dans une nostalgie de finalement on va reprendre, on va faire des remakes, on va faire ce qu'on appelle aussi des reboots, on va reprendre par exemple des films Total Recall, on va le faire, on va reprendre Robocop, Star Wars, ces choses-là.
Parce qu'on sait que ça marche, en fait. On en revient à la part économique de la chose, c'est-à-dire qu'on est sur une industrie qui a besoin de faire des entrées, qui prend de moins en moins de risques et qui va de plus en plus dérouler le fil de choses que les gens connaissent. Et on le retrouve dans tous les types de films. Barbie, dont vous parliez, est pas très très loin de ça, parce que Barbie, c'est pas un film pour les enfants. Barbie, c'est un film, et y compris dans le film d'ailleurs, pour les grandes filles qui ont joué petites à la Barbie. Donc on est toujours sur cette nostalgie-là, même quand on essaie d'innover, de trouver de nouvelles choses.
Et puis parfois aussi, ça fait du bien la nostalgie quand on ne l'attend pas. C'est le cas, par exemple, quelqu'un comme Quentin Tarantino joue aussi là-dessus. Quand on l'a vu Once Upon a Time in Hollywood, on voit, il joue beaucoup sur cette Hollywood fantasmée. Aussi, donc,
je suis très mauvaise en...
Ah, vous ne l'avez pas vu peut-être?
Non, je n'avais pas très envie de le voir.
Vous l'avez vu, non? Tarantino, oui, est-ce que vous avez eu cette impression aussi en le voyant que c'était quelque chose de très nostalgique et qu'on jouait sur cette corde, on tirait un peu cette corde de la nostalgie?
Ouais, je pense que ça rejoint en fait exactement ce que on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a quelque chose de très rassurant dans la nostalgie, et quand on voit Quentin Tarantino mettre des acteurs qu'on connaît très très bien, c'est-à-dire Brad Pitt et Leonardo DiCaprio en front, et avec un filtre un peu sépia pour montrer que c'était avant, et des belles voitures, il y a quelque chose de très facile, en tout cas très accessible pour tout le monde, donc c'est vrai que ça rassemble, quoi.
Oui. Vous voulez agir sur...
Oui, je ne sais pas si c'est de la nostalgie... Enfin, il y a des références au passé dans tous les films de Tarantino, puisque justement, il s'appuie lui-même sur des phénomènes de réécriture, de nourriture, si je puis dire, interne, de références qu'il digère pour créer du nouveau. Peut-être que dans Once Upon a Time in Hollywood, c'est un peu plus marqué, parce que on a quelque chose là qui, dès le titre, exprime très clairement qu'on va parler d'une forme d'âge d'or. Ce qui est intéressant aussi dans le film, et qui est moins visible à premier abord, surtout en France, parce que c'est des références qu'on n'a pas, c'est comment ça montre aussi un certain âge d'or de la télévision. Parce qu'à un moment, il joue une série, etc., qui est une vraie série, en fait, et qui joue vraiment dans des références comme cela. Mais là, je ne sais pas si on est vraiment dans la nostalgie ou simplement dans le fait que pour se construire en tant qu'artiste, on s'inscrit toujours dans une continuité et dans des refus.
C'est ça, oui. Nora Boisini, on voit aussi finalement cette nostalgie qui n'arrête pas d'être présentée. On parlait là du cinéma, on parlait de la musique, mais on le voit aussi dans la publicité. C'est assez étonnant. Par exemple, là, il y a Renault, par exemple, qui a vendu une voiture façon Jacques Demy. Par exemple, on fait appel à ce genre de choses.
Oui, il y a une publicité pour un goûter au chocolat dont je citerai, ou peut-être on peut citer la marque.
C'était 4, 5.
Bon, alors bah, j'en ai qu'une, mais ça commence par délit et ça finit par un autre mot. Et c'est donc une mère avec son fils, et c'est une mère qui a à peu près 35 ans, quelque chose comme ça. Elle a un ado et elle lui montre des objets typiques années 80 et elle lui dit t'auras le droit à un goûter seulement si tu me dis à quoi ça sert. Et elle lui montre une cassette audio. Et elle lui montre ça avec un crayon et elle lui dit à quoi ça sert à ton avis. Donc on joue là-dessus parce qu'en fait, aujourd'hui, dans la publicité, mais comme dans les séries, etc., dans la publicité surtout, bon, déjà, on n'est pas là pour vous faire juste plaisir, on est là pour vous vendre un produit, mais on vous vend plus un produit, on vous vend une expérience, on vous vend un mode de vie, un lifestyle. Les pubs pour voitures sont un exemple absolument parfait de ça. On ne vous vend pas une voiture, on vous vend une deuxième maison, on vous vend un confort, on vous vend un statut social, c'est statutaire aussi. Et on joue aussi sur la connivence dont on parlait, des références. Alors, dans la publicité, c'est différent parce qu'il n'y a pas vraiment de comparaison, mais l'écueil quand on part de nostalgie dans l'audiovisuel, la pop culture, etc., c'est de multiplier des références et finir par souffrir de la comparaison. Parce qu'en fait, en commençant à référencer des films, des chansons, etc., on appelle forcément à la comparaison avec les œuvres dont on s'inspire pour créer sa propre œuvre, des petits easter eggs, comme on dit, donc des petites références cachées un peu partout. Et donc, si on commence à faire penser au public trop à l'œuvre ou aux œuvres originelles, on peut quand même se dire, ah, c'était quand même mieux avant. Peut-être.
Chez Valdacchino.
Dans la pub, il y a une vraie tendance de fond aussi, de vraiment dans la stratégie de marque, de revenir à cette espèce de valeur refuge qui est la nostalgie. Et on ne compte plus depuis quelques années le nombre de marques qui reprennent leur vieux logo des années 70, leur vieux slogan, leur vieille musique. Vous parliez de Renault tout à l'heure, qui a remis dans ses pubs de ces dernières années la même musique que dans les années 80, un petit peu remise au goût du jour pour pas qu'on se rende trop compte que c'est exactement la même chose. Mais c'est exactement la même chose. Là, pour le coup, il y a vraiment une sorte de retour à cette idée, pas forcément vraie, un peu fantasmée, de c'était les années 70 et 80, on était bien, on avait une insouciance, et donc notre voiture Renault avec son logo jaune, on l'a avec son logo jaune aujourd'hui, pareil.
Et c'est ça qui est amusant, c'est qu'en effet, vous le dites, l'insouciance, etc., quand on prend du recul et quand on a vécu ces années-là, on se rend compte que c'était pas si insouciant que ça, en fait. Par exemple, quand on parle des années 60, quand on interviewe des artistes des années 60, ils vont vous dire, bah oui, mais moi je devais partir à la guerre d'Algérie, c'était pas aussi simple que ça, c'était pas aussi marrant que ça. Il y a quand même une sorte de fantasme Nora Boisini autour aussi, enfin d'une époque. Tout
en fait, on idéalise. En fait, le truc de la nostalgie, c'est l'idéalisation d'une époque révolue, parce que peut-être, alors, je parle des années 80, parce que c'est quand même énormément ça en ce moment, les 80 à 90. Mais moi, je suis née en 86, donc pour moi, les années 80-90, c'était vraiment l'insouciance adolescente, quel que soit le milieu dans lequel on a grandi, a une forme quand même d'insouciance. Et donc, mes souvenirs sont forcément déformés. J'idéalise cette époque. C'était pas aussi joli que je veux croire. Évidemment, c'est joli quand on regarde les Goonies, mais quand on vivait tous les jours, c'était pas fun, quoi.
Pour avoir à peu près les mêmes souvenirs que vous, à un moment, on se dit quand même qu'aujourd'hui, ça soit la mode du vintage des années 90, ça fait un peu mal.
Oui, esthétiquement, parfois, on pose des questions. J'aime bien le fluo, cela dit. Non, mais voilà. En fait, c'est là où je voudrais juste rebondir sur ce qu'on dit tout à l'heure sur le côté peut-être négatif ou toxique de ça. Et le côté toxique de l'idéalisation, au cinéma notamment, ça peut se traduire par des campagnes de cyberharcèlement contre des actrices, et je dis actrices à dessein. On parle de Leslie Jones, qui en plus est afro-américaine dans Ghostbusters. On parle de Daisy Ridley dans Star Wars, qui, parce qu'elle ne correspond pas à cette idéalisation et au film des années 80, Star Wars ou Ghostbusters, se prennent des avalanches d'insultes sur les réseaux, etc.
Oui, bien sûr, à cause de ça. On va continuer à en parler, justement, de cette nostalgie. On va voir si ça correspond vraiment à notre époque. On cherche aussi une valeur refuge. Et ça sera juste après Zao de Sagazan avec la Symphonie des éclairs.
Si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer. Beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
France Inter, Jean-Mathieu Pernin, le débat de midi.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le débat de midi. On parle de la tendance nostalgique. La nostalgie qui est partout, notamment dans le divertissement, qui est aussi dans la mode, hein, dans la cuisine et même dans les émissions de télé. On va voir ça dans un instant. Alors, est-ce que c'est une tendance qu'il faut justement apprécier ou au contraire la critiquer? N'hésitez pas à réagir sur l'appli France Inter en nous laissant des notes vocales ou des messages. Pour en parler autour de la table, nous trouvons Julien Baldacchino qui est journaliste spécialiste culture web chez France Inter. Nora Boisini, journaliste indépendante et autrice. Silly Boy Blue, chanteuse, également nommée aux Victoires 2023 et fan des années 2000, dans sa musique, on va dire ça comme ça. Et Séverine Bard, vous êtes maître de conférence à Paris 3, sociologue, spécialiste des séries. Je parlais à l'instant aussi, on a évoqué le cinéma, les séries, et je parlais également de la télévision, parce qu'il est vrai que cette année, il y a eu un phénomène assez étonnant sur TF1, qui a relancé une émission qu'on pensait eh bien depuis longtemps mise aux oubliettes, qui était la Star Academy depuis 10 ans. Et ça a fait un carton, ça a été un succès d'audience, 4,5 millions pour ce qu'on appelle des primes, c'est-à-dire tous les vendredis soirs, l'émission spéciale. Alors peut-être on ne s'y attendait pas, mais alors là justement, ça a réuni deux générations aussi, hein, les parents et les enfants. Silly Boy Blue, tout à l'heure vous parliez justement de ces groupes hein, des années 2000. Alors là, avec Star Academy, on est à fond dedans.
Ouais, et puis ça a tellement été une surprise pour TF1 que eux ils avaient prévu une saison courte où ils éliminaient beaucoup de candidats par prime. Et en fait, il y a eu tellement de succès qu'ils ont un peu essayé de rallonger. Et là, la saison prochaine sera une saison normale, c'est-à-dire comme les saisons d'avant où il y aura, il me semble, une quinzaine de prime. Enfin, ils ont pris le risque, ils ont vu que ça marchait très bien. Et puis ils ont été, je pense, autant surpris du succès que les gens qui regardaient les audiences, comme par exemple moi-même, et de me dire yes, ça continue la semaine prochaine. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu ce retour de la Star Academy qui a fait du bien. Moi, j'ai grandi avec la Star Academy, donc j'ai 27 ans, j'ai grandi avec la Star Academy, avec le rendez-vous du vendredi soir, c'était la seule émission de télé-réalité que j'avais le droit de regarder, et de voir que ça revient, même en ayant 10 ans de plus, que même 15 ans de plus, que le moment où ça s'est arrêté, j'étais évidemment au rendez-vous devant les primes avec potentiellement des amis qui ont grandi à cette époque-là aussi.
Et pour vous, c'était l'idée de quoi? De retrouver alors ce que vous aviez aimé quand vous étiez plus jeune, ou de se dire, c'est super, on va avoir des nouveaux candidats, ou alors c'était de revivre finalement la même émotion, vous pensiez revivre ça?
Là, pour le coup, c'est vraiment dirigé vers la nostalgie. Ils ont repris le même château dans lequel les élèves sont, le même concept, les mêmes primes, Nico sans présentateur. Donc, il y a tout un truc très Madeleine de Proust qui, moi, je connaissais pas les candidats, comme tout le monde qui a commencé à regarder, et j'avais quand même envie de regarder. Après, il se trouve qu'ils ont fait un très bon casting, je trouve, qui a permis de s'attacher aux candidats de la même manière qu'avant. Donc, c'est ça qui a fait aussi que les gens ont suivi l'émission. Mais c'est le point d'entrée, c'est quand même tous les totems récupérés dans l'émission d'avant.
Oui, c'est ça, Julien Baldacchino, on l'a vu, ça sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est une émission qui a très bien marché sur les réseaux sociaux. On en a beaucoup parlé et on jouait sur la nostalgie.
Et c'est la société de production qui a commencé à jouer là-dessus bien en amont, en mettant sur Internet toutes les émissions de toutes les saisons précédentes.
Ah oui, d'accord.
Sur un an, deux ans, ça a commencé au moment notamment des confinements. On pouvait revoir toutes les émissions de la Starac. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit aussi qu'ils ont fait un sacré boulot de modernisation sur la nouvelle version. C'est-à-dire qu'ils ont gardé les fondamentaux et ils ont fait évoluer pour que ce soit de la télévision de 2022. Quand on regarde la première émission de la première saison de la Starac, on voit qu'il y a les fils qui pendent dans le château. On voit que sur la forme, c'est pas complètement prêt. Là, ils ont gardé la recette et puis ils l'ont mise à la sauce de 2023 pour que ça fasse pas tâche et pour que les gens qui n'ont pas connu ça et qui ont connu l'héritage de la Starac, qui au fond est The Voice et toutes les émissions de télécrochet qu'on a connues depuis, qu'on ait un petit peu ce retour à zéro avec quand même une inscription dans une forme d'évolution.
Séverine Bert, on l'a entendu ce que disait Julien Baldacchino, donc la société de production Star Academy qui met sur les réseaux sociaux et sur son site à disposition les anciens pour jouer à fond sur la nostalgie. C'est ça qui est assez étonnant avec Internet, c'est que c'est un moyen de communication ultra moderne qui rend nostalgique.
Oui, et puis vous voyez des choses qui fonctionnent bien alors qu'on n'avait pas forcément, c'était pas forcément quelque chose de très attendu par des observateurs extérieurs ou autres, mais par exemple la plateforme de Lina.
J'allais vous le
Madeleine,
dire. Madeleine. Madeleine, qui s'appelle Madeleine, comme Madeleine de Proust.
Exactement. qui avant s'appelait Ina.fr, très bêtement, et donc qui dans ce rebranding ou cette modernisation
la
marketing
marque,
des choses, joue sur Proust et la Madeleine, mais avec une orthographe moderne. C'est pas l'orthographe de Madeleine, etc. Et qu'ils avaient fait sa promotion avec des chansons qui reprenaient le prénom Madeleine, des vieilles chansons, etc. Donc on avait vraiment cette question de la nostalgie. Et où on voit que ce qui fonctionne bien, c'est non seulement ce qu'on appelle les programmes de stock, c'est-à-dire les fictions, les choses qu'on peut rediffuser facilement, etc. Mais ils ont aussi beaucoup d'émissions de flux et qui fonctionnent très très bien en revisionnage chez eux. Des vieux magazines, des choses, des bons... Dim Dam Dom, vous voyez, des vieilles émissions.
Et même des vieux feuilletons, par exemple. On peut voir Arsène Lupin diffusé dans les 70, 60, des choses comme ça. La caméra explore le temps, on se retrouve sur des émissions. On voit une télé très créative, d'ailleurs, à l'époque.
c'était très créatif. Oui. Moi, je fais parfois travailler mes étudiants sur les fictions des années 70, et ils sont étonnés de voir ça. On avait déjà vu ça quand la 5... Pardon, je vais parler pour les vieux.
Alors, attendez,
mais quand la
5,
pour remplir ses quotas et ses grilles, etc., rediffusait des vieilles productions de l'ORTF, et ça marchait plutôt pas mal à l'époque. Et ça joue sur ce même type de choses, et c'est pas du tout étonnant que les vieux feuilletons marchent.
Alors, ce qui est étonnant, c'est... je vais faire un petit anglicisme. Désolé pour nos auditeurs, mais il est vrai, Nora Boisani, il y a un universitaire argentin qui a qualifié ce phénomène dont on parle depuis tout à l'heure de nostalgia, c'est-à-dire la nostalgie d'aujourd'hui. Est-ce que pour vous c'est finalement un bon terme, nostalgie d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec Internet, c'est vrai que si on aime un groupe de musique, par exemple, on peut tout savoir d'un coup, et on peut même regarder ses vieux concerts, on peut avoir même des concerts qui sont sur YouTube, alors qu'avant on mettait un temps fou pour les trouver. Est-ce que c'est un appareil à nostalgie finalement?
Je dirais que c'est même encore plus fort que ça, parce que moi il me semble que dans ce concept... J'y vois une sorte de nostalgie à très court terme, en termes de passé. C'est-à-dire que avec Internet et avec l'avalanche de contenu, d'œuvres, de chansons, d'émissions, de musique, de séries, etc., qu'on a l'impression parfois que quelque chose qu'on a regardé il y a un an est sorti il y a cinq ans. Et donc, il y a une espèce de déformation, j'ai l'impression, temporelle. D'une chronologie qui en fait va à toute vitesse parce que on parlait du peak TV, donc cette démultiplication des contenus sériels avec l'avènement des plateformes comme Netflix qui a été le premier à le faire. On a vraiment l'impression qu'il y a tellement de choses qui sortent qu'on souffre aussi, et je vais faire un anglais parce que je vais expliquer, du FOMO, donc c'est la peur de manquer, la peur de rater quelque chose. Et donc en fait on regarde des choses, on a l'impression qu'on en rate beaucoup et qu'on n'est pas tout à fait... un peu à la page, quoi, qu'on a raté quelque chose, que ça c'est déjà has-been parce qu'il y a un nouveau truc qui vient le supplanter, le remplacer, des nouveaux concepts. Et justement, en termes de nostalgie, il me semble que aujourd'hui, Marvel par exemple, ou Indiana Jones, on en parlait, ou les Star Wars, le nouveau Terminator, bon bref, on joue sur une nostalgie qui est moderne, c'est-à-dire que je sais pas comment l'expliquer, mais on est aujourd'hui dans un truc qu'on regarde qui est une nouvelle création. Voilà, on n'est pas en train de regarder c'est le premier ça, Terminator à la télé. Oui. Mais donc, il y a une nostalgie qui est dans une modernité où c'est pas forcément du « c'était mieux avant ». C'est l'espèce de mélange un peu bizarre, un peu hybride, quoi.
C'est ça, oui. Séverine Barthes, pardon.
Oui, ici, on peut nourrir la réflexion avec les théories d'Armut Rozak, un sociologue, qui parle de l'accélération technologique, qui en fait est l'accélération du temps. Et en fait, cette accélération technologique, elle est censée nous faire gagner du temps. Le mail, c'est plus rapide que le courrier postal.
Bien sûr.
Et donc, c'est censé nous faire gagner du temps. Mais nous faisant gagner du temps, on veut faire plus de choses. Et donc, au final, on a de moins en moins de temps. Je résume à très gros traits, c'est plus subtil que ça, sa pensée. Mais donc, c'est ce type de processus qui, aujourd'hui, avec les plateformes, par exemple, cette facilité d'accès, cette rapidité à l'accès, elle nous pousse aussi à voir de plus en plus. Quand vous deviez avant attendre d'une semaine sur l'autre la diffusion de votre épisode de série télévisée, vous attendiez. Là, vous pouvez en voir 10 à la suite d'un coup, et en faisant cela, vous voulez en voir toujours plus.
Et est-ce que c'est ce phénomène qui nous rend aussi peut-être nostalgique, parce qu'on en parle comme une valeur refuge, comme on dit, est-ce que c'est ça finalement que c'est plus rassurant, parce qu'on n'a pas à être en effet sur la nouvelle tendance, sur la nouvelle série, sur le nouveau titre de musique, parce que là, c'est pareil, la musique, ça a explosé au niveau de nombre de titres qu'on peut avoir chaque jour, c'est ça en fait.
Oui, et je pense que la nostalgie, en fait, elle revient, elle s'associe de fait après avec tous ces mouvements de décélération, je vais faire de l'anglicisme, désolé, mais genre slow food, voyez, slow travel, etc.
D'accord,
donc
oui.
L'idée de prendre retourner, de prendre son temps, et que c'était le mode de vie d'avant. Et que ça aussi, en fait, c'est une forme de nostalgie.
C'est ça aussi, Cyborg Blue, est-ce que vous le remarquez? Je vois votre t-shirt qui est le Rocky Horror Picture Show. C'est donc qui est un film donc, qui date de la fin des années 70. Pour vous-même, aujourd'hui, Internet est un accélérateur de nostalgie?
Ça rejoint ce qu'on dit, c'est un mélange des deux, ça donne accès à des données absolument incroyables. Moi, je suis très contente d'avoir pu m'en servir pour voir des concerts de David Bowie que je n'ai jamais vu en concert et qui est un artiste que j'adore. Donc, c'est génial pour plein de points puisqu'on peut accentuer ses connaissances et vraiment aller chercher des choses qu'on n'aurait jamais pu voir à cette époque-là. Mais ça fait un peu ce phénomène de on peut tout voir, donc est-ce qu'on va tout voir? Non, puisqu'en fait, on peut tout voir. Donc, c'est très frustrant. Il y a une grosse frustration de se dire tout, on a accès à tout, par où commencer, comment le faire, et puis où s'arrêter aussi. Ça peut un peu faire des frénésies qui sont assez embêtantes aussi à des moments.
Alors, Jean Baldacchino, est-ce qu'on peut dire finalement aujourd'hui, quand on voit cette nostalgie rassurante, est-ce qu'on est dans l'apogée finalement d'une société marketing qui a trouvé, ça y est, cette martingale qui dit tout le monde va y aller puisque tout le monde devient nostalgique?
Jusqu'au moment où ça ne marchera plus. C'est-à-dire que pour l'instant, on est dans cette petite débauche de toujours revenir, et ça vaut dans tout. En musique, par exemple, il y a 10 ans, on avait les tournées Achetandre et Tête de Bois qui célébraient les années 60, puis il y a eu Star 80 qui célébrait les années 80, et là on se retrouve effectivement avec des tournées qui célèbrent les artistes des années 2000. Donc on se rapproche. La question, c'est à quel moment on va se rendre compte qu'on a envie aussi d'écouter de nouvelles choses. Et je pense que l'exemple de Disney qui tire vraiment toutes les ficelles de Marvel jusqu'au bout, et en fait les films Marvel commencent à fonctionner moins bien au cinéma. Et on voit que, en revanche, des tentatives un petit peu plus osées en termes d'animation, en termes de cinéma, comme le dernier... Alors, Spider-Man, c'est Marvel aussi.
Oui.
Mais le tout dernier qui est sorti, qui est un film d'animation, qui va chercher dans quelque chose de nouveau, qui ne fait pas appel à des anciens acteurs, à des anciennes références, qui va... plus tenter de nouvelles choses, là on voit que ça marche. Donc peut-être qu'on n'est pas si loin que ça d'un moment pivot où on va se dire que ça peut être pas mal aussi de laisser un peu cette nostalgie, ou en tout cas ce 100% nostalgie de côté, et d'aller aussi chercher du nouveau.
Ouais, Séverine Bave, on est aussi, voilà ce que je disais sur le côté marketing, cette société marketing avec la nostalgie qui semble en effet avoir trouvé le bon bouton, voilà, pour nous amener dans les salles, pour devant la télé ou pour nous faire écouter des choses. Ça semble en effet s'appuyer jusqu'au moment où on trouvera un autre concept.
Oui, les médias fonctionnent, enfin les médias, la culture d'ailleurs, hein, fonctionne toujours comme cela par cycle. C'est-à-dire que vous avez une forme de, vous avez des précurseurs. Peut-être que sur cette question de la nostalgie et des séries télé, le précurseur a peut-être été Mad Men. On a des précurseurs comme ça qui lancent un effet de mode, enfin qui fonctionne bien, et donc il va y avoir des imitateurs. Ça s'emballe jusqu'à l'overdose, et où en fait on s'est rendu compte que dans cette période d'overdose, bah il y avait quelqu'un qui était précurseur de enfin, qui proposait quelque chose de nouveau, et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour créer le nouveau phénomène, la nouvelle embellie.
Alors, sur l'appli France Inter, vous réagissez justement avec vos messages, et Nora Bosini, eh bien, il y a Brigitte, hein, qui va un peu dans votre sens, puisqu'elle nous dit, moi je suis nostalgique de cette période où on avait à peu près les mêmes repères culturels dans une même classe d'âge. Actuellement, tout est trop segmenté, il n'y a plus tellement de partage et de brassage social. Ça, c'est souvent aussi le reproche qu'on fait à Internet, c'est vrai, d'isoler par communauté. Est-ce que c'est un peu ça aussi ce qu'on recherche par nostalgie, ou quand on va voir un groupe, n'importe quoi, comme les Rolling Stones, il est sûr que ça va réunir énormément de gens.
Bonjour Brigitte. Non, mais c'est vrai que oui, quand on va, mais comme on parlait tout à l'heure, quand on va voir un film avec son fils ou sa fille, que c'est un film qui était important pour nous quand on était enfant ou ado, et cette volonté de réunir plein de générations, d'avoir quelque chose dont on peut parler pendant deux heures après, d'avoir des références communes, parce que oui, on peut se sentir un peu exclu de certaines choses qu'on trouve trop modernes, qu'on ne comprend pas. On parlait de technologie, hein, typiquement la technologie. Après, sur ce type de nostalgie-là. Bah, encore une fois, il y a vraiment un côté qui peut être toxique de se dire, bah, moi, je vais arrêter de regarder les trucs nouveaux parce que de toute façon, je comprends rien, je suis perdue. Mais il y a aussi cette volonté de surdoser, alors, au-delà de la nostalgie, de surdoser des enjeux très modernes et donc d'avoir l'espèce de case qu'on coche. Donc, on va refaire Indiana Jones, mais on va mettre tel personnage pour faire plaisir à telle catégorie. Après, l'idée de cloisonner et d'avoir des séries très qui parlent à un certain public très précis, c'est vraiment une stratégie de plateforme. Netflix a commencé avec ça, en dépensant un pognon monstrueux dès le début, et a été suivi par toutes les plateformes qui, aujourd'hui, sont plutôt des plateformes de technologie, hein, Apple, Amazon, dont le cœur de métier n'est pas la série, bien sûr, on n'est pas sur du HBO, etc. Et donc, ça a été aussi un moyen de cloisonner et d'avoir des séries pour des gens très, 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 très précis, des groupes, des communautés très précises. Et aujourd'hui, on parle de est-ce que ça marche la nostalgie, est-ce que ça marchera, et on parlait aussi du côté risque financier. Aujourd'hui, on sait que les plateformes ne rapportent pas d'argent, elles perdent des abonnés, il y a une hémorragie, les actionnaires ne sont pas contents. Donc là, il y a un truc qui est en train de changer, c'est que je pense qu'on va avoir droit, malheureusement, à de plus en plus de vieilles séries, de reboots, donc des redémarrages de franchises anciennes. Oh là là, parce que, vu qu'ils ne gagnent pas d'argent et qu'ils en perdent, eh ben, ils vont prendre de moins en moins de risques. Donc on aura de moins en moins des séries qui sont modernes et originales.
Alors, Julien Baldacchino, ça va dans le sens aussi, parce que j'ai vu par exemple là, ce qu'on appelle les gros films américains qui vont sortir en 2024. J'ai été très surpris de voir qu'il y allait avoir un retour. On a refait donc La couleur pourpre de Steven Spielberg. Ça va être diffusé en effet sur les écrans. Ce n'est pas vieux, hein, La couleur pourpre. On va faire aussi un film sur Le Roi Lion. Donc ce qui s'est passé avant Le Roi Lion, pour nous expliquer encore avant. Et là, j'ai appris qu'il va y avoir un nouveau Ocean Eleven, donc ce film de casse. Mais qui va se dérouler dans les années 60. Donc alors là, c'est-à-dire qu'on double l'effet nostalgique. Et ça va donc sur la question de Gilles, qui nous dit « Est-ce que la nostalgie ne serait tout simplement pas due à une baisse de créativité artistique actuelle face au formatage imposé par le public des réseaux sociaux ?» Voilà ce que nous dit Gilles.
Non, parce que la créativité, elle existe. Il y a des tas de créateurs et de créatrices dans tous les domaines artistiques. Le problème, c'est que effectivement, par manque de prise de risque, on va aller chercher des choses dont on sait ou dont on pense que ça va marcher. Et après, il y a des astuces. Alors, il y a beaucoup de films qui ont fait ça, qui ont fait ce qu'on appelle des films méta. C'est-à-dire que on va donner l'impression que le film se moque un peu de cette nostalgie, ou qu'il est conscient de sa propre nostalgie et de sa propre de son propre cynisme commercial. Et en fait, c'est encore plus cynique de se dire que voilà, on va voir un film qui parle du fait que c'est un film avec des personnages qui sont conscients de ça, alors que le film, en fait, il est produit par la boîte qui s'auto-critique, mais très doucement très gentiment.
Oui, on voit que c'est un peu une tendance, en effet, actuellement. Silly Boy Blue, il y a aussi une question. Alors là, c'est vous qui pouvez répondre, hein, véritablement, en tant que musicienne. Marie-Pierre qui dit « Je suis née en 1960. J'en ai plus qu'assez depuis des années déjà d'entendre la musique des années 80. » Elle n'en peut plus, apparemment, Marie-Pierre. « Année de ma jeunesse, pourquoi est-elle si cotée, cette musique? Pourquoi rester dans cette nostalgie? La musique actuelle est très variée et l'offre est très intéressante, dit-elle. » Pourquoi, finalement, on focalise, à votre avis, sur cette période-là, en effet, où il n'y a pas que du bon?
Je pense que c'est une idéalisation de ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire que dans les années 80, le disque marchait très très bien. Il n'y avait ni des problèmes avant ni après. On avait une espèce de boulevard de liberté totale. Et on pouvait sortir à peu près n'importe quoi dans le domaine de l'écoutable. Et c'était très très bien vendu. Et ça faisait des scores pas possibles. Donc je pense que il y a le manque de prise de risque aujourd'hui aussi dans la musique. Et le désir de revenir à ce qu'on connaît. Moi, je sais, dans... les comparaisons sans cesse de dire « Ah, ça pourrait ressembler à ça et tout ça », c'est déjà parce que les gens adorent mettre les autres gens dans des cases. C'est très très rassurant de mettre des gens dans des cases et de pas foncer vers l'inconnu. Et aussi, c'est parce que c'est des époques où ça vendait du disque, où ça vendait des concerts, où c'était une espèce de fidélité pas possible des fans qui n'avaient pas accès à d'autres choses que les concerts, les interviews dans les magazines et les disques pour se nourrir d'un artiste. Donc, il y avait ce truc très rassurant d'une industrie musicale qui se portait absolument à merveille et où on temps à revenir puisqu'on ne sait pas ce que va être demain. Oui. Donc en fait, on se dit qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui va me faire en sorte que ça marche. Et ben on se tourne vers le passé, notamment vers les années 80.
Si vous prenez ce qui est assez particulier aussi, c'est que finalement cette idée qu'on se fait des années 80 en musique, elle est hyper resserrée sur un tout petit nombre de chansons. Si vous prenez la liste des titres qui ont été numéro 1 du top 50 dans les années 80, il y en a énormément qui sont restés longtemps en tête du top 50 qu'on a complètement oublié aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas été rediffusés par les radios, parce qu'ils n'ont pas été mis en avant sur des clips en ligne et qui pourtant ont existé. Et ceux-là ont été un petit peu gommés de cette nostalgie-là.
Il y a aussi la modernité de cette musique. Enfin, c'est quand même les années 80, le moment où on a la technologie, l'électronique qui rentre au service de la musique, chose qu'on n'avait pas avant. Donc, il y a une modernité dans les années 80 qui nous rappelle celle d'aujourd'hui et qu'on peut remixer plus facilement. Il me semble, je ne sais pas si vous êtes musicienne, vous savez mieux que moi, mais qu'on peut remixer plus facilement aujourd'hui, qui va être plus moderne qu'un truc des années 70.
Voilà, mais je pense que Marie-Pierre évoquait en effet ce que disait aussi Julien à propos stars des années 80, comme on nous l'a vraiment, vraiment énormément, la variété française qui a été assez, omniprésente, hein, on va dire, ces derniers temps. Allez, on continue à parler de cette nostalgie. Dans le débat de midi, vous pouvez réagir sur l'appli France Inter. Mais tout de suite, on va écouter une femme d'aujourd'hui, c'est Georgia Smith avec Little Thing Home.
You said
débat de midi. Sur France Inter.
Le débat de midi, nous parlons nostalgie hein, dans la culture, mais également dans la publicité, dans les médias. Elle est partout, cette nostalgie, valeur refuge, valeur même doudou, hein, certains disent. On en discute avec Julien Baldacchino, journaliste spécialisé culture web chez France Inter. Nora Boisini, journaliste indépendante. Si Boy Blue, vous êtes chanteuse, inspirée donc par les années 2000. Et Séverine Barthes, maître de conférence à Paris 3, sociologue, spécialiste des séries. D'ailleurs, Séverine Barthes, une question on a eue sur l'appli France Inter, de Clémence. Alors, elle nous dit, cette nostalgie n'est-elle pas aussi un choix médiatique? N'a-t-il pas finalement un intérêt à entretenir, hein, je dis exprès, un « c'était mieux avant » et conforter les gens dans le passé face à un monde à inventer demain qui serait compliqué à inventer?
Alors, ça répond à des besoins des gens. C'est-à-dire que c'est pas un complot ou que oui, sais-je. Je suis pas sûre que c'est une volonté idéologique forte de dire il faut coincer les gens dans le passé pour qu'ils ne voient pas l'avenir, etc. En revanche, je pense que ça répond à des besoins émotionnels, affectifs, des gens qui, la société moderne est compliquée, les relations sociales sont de plus en plus dures, etc. Et donc se retrouver dans ce passé un peu fantasmé, mythifié, idéalisé, etc., ça permet effectivement de retrouver une situation plus simple, quelque chose de plus apaisé. C'est ce côté doudou, hein. C'est exactement le rôle du doudou pour un enfant.
Alors, on a commencé cette émission en évoquant le titre d'une série qui est Stranger Things, qui joue vraiment véritablement à fond là-dessus. Ça se passe dans les années 80 aux États-Unis. La référence envers les films de Steven Spielberg, Joe Dante, on la voit tout de suite. Même E.T., ce sont des enfants en vélo. Il y a un concept à propos de ça qui s'appelle le faustalgia. Alors le faustalgia, ça désigne le sentiment de regretter une période du passé qu'on n'a jamais expérimentée, qu'on n'a jamais connue.
Ouais.
Est-ce qu'à votre avis, en fait, vous-même, est-ce que vous seriez un peu là-dedans? Est-ce que vous seriez faustalgique?
Ah bah oui, moi je pense que la nostalgie s'arrête pas heureusement au moment où on était déjà sur cette planète, parce que sinon ce serait très réduit, en tout cas pour les plus jeunes générations. Mais c'est bien sûr, c'est encore cette idée de un peu fantasmer une époque, et c'est ce que disait Julien tout à l'heure, c'est que en fait, on fantasme pas toute une époque, on fantasme des bouts de cette époque, évidemment, parce qu'il y avait évidemment les problématiques des époques précédentes, mais on fantasme des choses qui sont remises au goût du jour et où on se dit, waouh, ça avait l'air très très beau, en plus ils portaient des habits comme ça et ils mangeaient ça, alors que j'imagine que c'était pas la vie de tous les enfants américains de cette époque.
Non, c'est ça. Nora Boisini, ce concept de faustalgie, on le voit un peu plus, on le voit vraiment partout, et c'est vrai que cette série, la Stranger Things, joue complètement dessus.
Elle joue dessus, mais on le voit aussi. Moi, ce qui m'intéresserait, parce que là, on a parlé de plein de choses, mais il est midi, on a faim.
C'est exactement.
Et on a envie de parler aussi de restauration, d'alimentation. Et on voit, cette fausse nostalgie. On le voit avec le retour en grâce des bistrots très franchouillards, avec les nappes à carreaux et les petits rideaux dentelles, avec les œufs mayo, avec le pâté en croûte, avec notamment les championnats de France du pâté en croûte, etc.
Et c'est ça, ce qui est fou, pardon, je vous interromps, excusez-moi, mais c'est vrai que le championnat du pâté en croûte, je suis tombé dessus sur Instagram, ça fait un nombre de vues.
Bah déjà, la France adore les concours culinaires. Hein, voilà, c'est une particularité très française. Hein, on adore comparer les gens, hiérarchiser les choses. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les néo-PMU, les nouveaux PMU. Donc, on garde du formica, le carrelage, le zinc, etc. Sauf qu'on enlève tous les gens qui sont en PMU, d'habitude, les classes ouvrières, les prolétaires, etc. Et on met que des bobos ou des bourgeois dedans, ou des gens branchés, puis on dit, c'est un PMU, sauf qu'on a vidé le PMU de toute son âme et son authenticité. Et Jean-Laurent Casselli a écrit un essai très intéressant là-dessus, sur cette recherche, cette quête d'authenticité, dans des choses qu'on va moderniser quelque chose d'ancien, en l'idéalisant, en prenant des éléments, comme on disait, on choisit ce qu'on prend et ce qu'on jette, parce que c'est une forme de retour à des valeurs soi-disant sûres, à une époque fantasmée qui était meilleure. C'était mieux avant, quand je comprenais la carte de tous les bistrots. C'était mieux avant qu'on me mette des trucs, des épices que je comprends pas ce que c'est. C'était mieux avant qu'on mette des trucs fermentés partout. C'était mieux avant qu'il y ait trop de plats végétariens dans les restaurants. On est en France, ça n'existe pas. Donc vraiment, c'est ce truc de cette authenticité. Donc ça peut passer aussi par des concepts très modernes, des coffee shops, des cafés très modernes, mais avec de la brique rouge, avec des espèces de faux fausses affiches anciennes, très parisiennes, le chat noir, le bien moulin.
Le chat noir, oui, il y en a beaucoup.
En plaque émaillée, etc.
Mais pourquoi, d'après vous, on est arrivé à ça? Parce que, pourquoi à un moment, il y a eu cette recherche, cette volonté d'authenticité? Est-ce que ça a été quand même aussi peut-être un refus d'une époque, en effet, qui pouvait proposer quelque chose de très aseptisé?
Mais c'est une fausse authenticité, en fait. C'est-à-dire que c'est du marketing, c'est vraiment un concept, en fait. Un PMU où il n'y a pas quelqu'un qui boit un petit verre à 11h30 en faisant sa grille de loto, c'est pas un PMU. Un PMU qui n'ouvre qu'à 19h jusqu'à 2h du matin, c'est pas un PMU, en fait. S'il n'y a pas des jeux à gratter et du picon, c'est pas un PMU. Et s'il n'y a que des gens qui bossent dans la pub dedans, ça n'est pas un PMU.
Merci d'avoir précisé ça, Jean-Baptiste.
Il y a quelque chose, parfois, dans cette nostalgie de très hypocrite. C'est-à-dire qu'une partie des gens qui se disent « Ah, ça, c'était bien à l'époque », sont les mêmes personnes que celles qui, à l'époque, quand ces choses-là sont sorties en musique, en ciné, disaient « Jamais j'irai voir ça, c'est nul, c'est de la sous-culture ». Et ça se voit dans plein de choses. Dans les comédies musicales, par exemple, où il y a plein de retours là qui sont en train de se faire, le public qui est allé voir le retour de Starmania, qui va peut-être aller voir celui des 10 commandements qui a été annoncé, n'aurait probablement jamais mis les pieds dans la salle de spectacle dans les années 90 et 2000.
Parce qu'il trouvait ça ringard.
Et ce qui était ringard est devenu hype. Donc il y a une forme d'hypocrisie comme ça, je trouve bien ce qu'avant je dédaignais un peu.
C'est vrai, une partie, est-ce que finalement, de proposer aussi presque que des concepts de nostalgie dans le divertissement, même à des adolescents ou à des plus jeunes, est-ce que finalement c'est pas embêtant par rapport, eux, à la manière dont ils vont se construire, si on se construit avec les mêmes références que ses parents?
Alors, ils ne se construisent pas avec les mêmes références que leurs parents. Pardon, beaucoup de queues dans cette phrase. Mais évidemment, il y a des choses qui sont de la nostalgie, donc ils voient des reboots ou des remakes, etc. Ils vont eux-mêmes voir, on s'est rendu compte par exemple que sur les plateformes, Friends est beaucoup regardé par des jeunes gens. Donc c'est pas c'est une forme de nostalgie, pas tout à fait celle dont on a parlé, mais qui est d'aller voir d'anciens contenus d'une époque qu'on n'a pas connue pour se nourrir soi-même. Ils ont toujours une part de culture juvénile, pour le dire très vite. Hein, ils continuent à aller voir d'autres choses, etc. Et d'autre part, je pense que ici, c'est des questions qu'on se pose avec peut-être cet air un peu condescendant ou ce nez pincé parce que c'est de la pop culture ou de la culture mainstream ou médiatique. Mais en revanche, il y a 40 ans, c'était très bien que les enfants lisent Victor Hugo. C'est-à-dire qu'à l'époque où c'était la culture plus livresque, ils lisaient aussi bien Victor Hugo que des romans plus contemporains pour la jeunesse, des romans populaires, etc. Et donc, toute la jeunesse a toujours navigué dans cette espèce... Enfin, chaque jeunesse à chaque époque a toujours navigué entre une espèce de fusion, entre une culture préexistante des parents, des grands-parents qu'il faut connaître, et une culture juvénile qui est en cours de création. Et donc, aujourd'hui, ils le font aussi, et toujours, ils le font différemment qu'avant.
Juste une dernière chose, Cibble View, tout à l'heure, un auditeur nous disait, ça empêche la créativité pour vous, le fait de cette référence permanente au passé, ça ne nous empêche pas de créer.
Alors, je pense que c'est comme dans à peu près tout, si la nostalgie est, en effet, on en a parlé tout à l'heure, une béquille, une inspiration, et si on a de la créativité, ça va donner des très belles choses. Par contre, en effet, si c'est du plagiat et juste une espèce de copie avec les instruments d'aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt. Et généralement, ça se voit quand c'est quelque chose de très peu inspiré et de très... On reste enfermé dans une case et on dit c'est la nouvelle nanana, c'est le nouveau, ça ne dépasse pas les époques, puisque évidemment si on commence à faire des années 90 quelque chose de très très marqué années 90 aujourd'hui, est-ce que dans 5 ans ça plaira encore? C'est une question qu'on peut se poser. Donc c'est très...
Et puis quand on dit c'est le nouveau, à chaque fois ça met quand même une pression aussi sur la personne qui commence.
Puis c'est très limitant finalement d'être le nouveau quelque chose, puisque c'est plutôt mieux de commencer à être soi d'une certaine manière.
Exactement, merci beaucoup en tout cas à vous quatre d'être venus débattre et bien de la nostalgie. Alors est-ce que la nostalgie c'était mieux avant? En tout cas on a vu qu'elle avait de l'avenir, voilà, c'est un peu particulier comme concept. Merci à Julien Baldacchino, merci également à Nora Boisini, Silly Boy Blue et Séverine Barthes d'être venus discuter de la nostalgie au débat de midi. Merci beaucoup à Étienne Bertin pour la réalisation, à la technique. C'était Mathias Alléon, une émission préparée pour la grandiose équipe, bien sûr, du débat de midi. Constance Villanova, Aloïse Nollet, Mathilde Texier, Savannah Rouelland. Alors, nous ne sommes que mercredi. Et bien, figurez-vous que le débat de midi continue, bien sûr, jusqu'à vendredi. Demain, on parlera alors d'un tout autre sujet, puisqu'on évoquera le thème de l'ISF climatique. Faut-il en effet que les Français les plus riches payent pour la transition climatique? On attend vos réactions sur l'appli France Inter. En attendant, sur Inter, il est 13h.